Enfin, les Jedi n'existent plus. En tout cas, pas tant que mon mot à dire.
Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Bonjour,
Hugo.
Et son micro ne tient pas. La force n'est pas puissante à côté de toi, mon cher Padawan.
Il veut mettre comme ça.
Oui, maître donc, yoga, alors
mais yoga, ben j'écarte mieux. Après cette séance d'érotisme.
Oui, tout à fait, c'est vrai. Et l'ouverture
que ça a suscité. C'est bien, hein.
Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des Star Wars. Je pense qu'on va faire l'émission en deux parties. D'abord, évidemment.
Pourquoi deux parties?
C'est-à-dire qu'on ne pourra pas échapper.
Non, je suis contre.
Ouais, d'accord, mais tu es tout contre. Mais oui. Ça, c'était l'émission passée.
Je suis contre.
D'accord, c'est bien. Non, parce qu'il y a une première partie, c'est George Lucas, puisqu'on ne peut pas passer à autre que forcément.
Quoi?
C'est-à-dire tout ce qu'il a amené au cinéma.
On s'en fout.
Mais on fera hyper rapide.
Wars,
et puis on fera les Star Wars, évidemment, sur l'actuel et sur le futur. Voilà. Donc tu voulais te lancer, mon cher Hugo?
Tu m'as cassé les pattes.
Oui, c'est ma spécialité, le cassage de pattes.
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, un dénommé George Lucas déclarait sa guerre des étoiles, bien sûr, sur une planète qui s'appelait la Terre. Merci. Pour ceux qui auraient donc vécu dans une grotte pendant les 30 dernières années et qui ne connaîtraient pas l'univers cultissime, hein, bien sûr, à croire que le mot a été inventé pour lui, de la guerre des étoiles, petit cours de rattrapage. La guerre des étoiles, donc c'est le titre original.
Oui,
tout à fait. Le titre original.
Oui, oui.
Le titre original.
Oui, le titre.
Je l'attends, monsieur.
Oui.
Star Wars,
voilà, oui, bah,
recalé.
Oui. Logiquement, maintenant, le premier s'appelle Le Nouvel Espoir. Hein. Ça s'appelle plus La Guerre des Étoiles.
On s'en fout.
Oui, mais c'est important.
Non, il n'y a pas d'espoir. Alors, est une épopée cinématographique de science fiction, suivant un mélange de romantique, de mythologie et de haute technologie, créée par donc Mr. George Lucas, et considérée comme un élément phare du space opéra. Donc, l'action se situe dans une galaxie lointaine et est le théâtre d'un affrontement incessant entre le bien et le mal. Le bien est défendu par l'ordre Jedi. On dit Jedi?
Oui.
Ou vendredi, je sais pas.
Non, Jedi.
Jedi.
C'est le Jedi.
Oui, pas le jet d'échalote.
Hein. Non, c'est le Jedi, comme dirait Maïté.
D'accord. Donc, une caste de sages guerriers aux nombreux pouvoirs psychiques, hein, télékinésie, préscience et compagnie. Donc, qui tirent de ce qu'ils appellent notamment la force. Comme le bien donc, n'existe pas sans le mal, la force a une nature...
Hostile?
Non.
Belliqueuse?
Non.
Pas gentille?
Non.
Je sais pas!
Je sais pas! Donc, a une nature duale. Oh là là,
ah bah
nul,
oui,
hein.
Duale!
Il me fait moins une série de pompes. Donc, alors, il n'arrête pas de... Présentant un côté clair, bien sûr, hein, ou lumineux, comme moi, utilisé par les Jedi, et un côté obscur, comme Gwen. Hein,
oui, moi, je suis le Sidious.
Le Sith, du coup.
Voilà.
Dark Maul, on l'appelle.
Oui, non.
Moi, c'est Dark Dur.
Moi, c'est Dark Dog. Ouais.
C'est pitoyable. Bon, alors, donc, les tenants du côté obscur sont les Jedi noirs, dont notamment les seigneurs des Sith, appelés ainsi, car il y a très longtemps... T'étais pas né, Gwen, hein?
Oui, j'étais pas né.
Ils avaient à leur service le peuple Sith. Donc les Sith sont des Jedi noirs ayant reçu un enseignement spécial. La colère, la haine, la peur peuvent mener les Jedi vers le côté obscur de la force s'ils ne sont pas capables de dominer ces pulsions.
Oui, c'est ce qu'avait dit Maître Yoda, que c'était la facilité dans la force. De succomber justement à la colère et à la peur.
D'accord, donc là je vais rentrer dans un peu expliciter les filmas. Hein. Donc prévu à la base hein, pour être une suite de trois trilogies, ça s'appelle un...
Une trilogie?
Non.
Une tétralogie?
Non, un triptyque.
Ah oui, le triptyque, eh ben oui forcément.
Mais oui, c'est toi qui l'as inventé ce mot.
Oui, c'est vrai en plus. Oui.
Donc Lucas, lui, non. Lucas fut contraint, on va pas y arriver aujourd'hui, fut contraint par manque de moyens techniques de commencer par la seconde trilogie. En 1977, donc, sort Star Wars épisode 4, La Guerre des...
des étoiles.
Bien, connu aujourd'hui sous le nom de épisode 4, un nouvel
espoir.
Bien. Réalisé par George Lucas et dans lequel on découvre Luke.
Mark Hamill.
Non, Skywalker.
Oui, enfin bon, c'est quand même Mark Hamill qui joue. Hein.
Oui, c'est vrai. Donc, la princesse.
La princesse ?
Oui, la princesse. La princesse Leia.
Leia.
Carrie Fisher, hein, comme Fisher Price. Yann Solo.
Harrison Ford.
Yeah.
Ouais.
Les deux droïdes, donc R2-D2 et C3-PO.
Ouais.
Obi-Wan Kenobi.
Oui.
Alec, une marque de
Guinness,
bière.
Ouais.
Il ne faut pas faire de publicité.
Non, mais il s'appelle Sir Alec Guinness.
Oui, c'est vrai. Ciné. Et Yoda, Yoda.
C'est Frank Oz, le célèbre créateur des Muppets.
Ouais, mais c'est Yoda quand même.
Qui faisait le
touche
son.
Pas à Yoda.
Et d'ailleurs, il le fait le son sur les six films.
Six films. Le film connaît un succès phénoménal partout dans le monde et engendre immédiatement une très importante communauté de fans.
Des geeks, on peut dire. Hein.
C'est vrai?
Ah oui, oui,
ça
oui.
Ça n'existait pas à l'époque.
Ah, oui, oui, non,
on disait fans.
Oui, oui, non, mais justement, il en a joué de ça, Georges.
Tu l'appelles pas Georges, tu le connais pas. Lucas, s'il te plaît. Répète après moi. Lucas, s'il te plaît. Lucas, donc, rempile alors et écrit Star Wars épisode 5, L'Empire contre-attaque, 1980, réalisé par
John Erwin Kirchner.
C'est bien. Et Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi, 1983, Richard
Marquand.
C'est un français?
Non.
D'accord. Donc, le public est à chaque fois au rendez-vous. Ouais, tu te souviens, là, quand il y avait un film qui sortait, ils s'habillaient, enfin bon.
Oui, oui, non. Puis les gens, ils attendaient à 3h du matin pour avoir enfin, ce qu'on a connu avec les Harry Potter, d'ailleurs.
D'accord. Grâce au succès de ce film, George Lucas fonde sa propre entreprise, hein, tu reviendras tout à l'heure.
Oui, tout à fait, oui.
De production cinématographique, Lucasfilm, sa propre entreprise d'effets spéciaux, Industrial Light and Magic.
Ouais, ILM.
Voilà. Et pas ULM, hein, comme
non.
Certains pourraient le penser. Et fut même... Non. Et fut... Si.
Si, si.
Effet même, oui. C'est dur à dire, effet même.
Effet même. Oui. Effet même.
Oui, d'accord. Merci pour tes talents de chant. C'est énorme. Effet même, construire donc un studio d'enregistrement.
Oui.
Pour les bandes son en 1987, le Skywalker Sound, auquel on doit le fameux son THX, qui n'est pas un désherbant.
Non.
Dans son ranch, le Skywalker Ranch. Donc, conscient de la mine d'or qu'il vient de découvrir, George Lucas garde une maîtrise totale sur l'utilisation des personnages de ses films. Après avoir véritablement réinventé les concepts de produits dérivés, figurines, jouets, vêtements, jeux de rôle, romans, jeux vidéo, bandes dessinées, etc., etc., et de monomania, des centaines de millions de fans obsédé à travers le monde.
Donc les geeks.
Donc Mr. George.
George of the Jungle.
Voilà. Doom, 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 doom. Merci Gwen pour ces jingles. Donc Monsieur George a poussé la logique commerciale à son extrême.
Oui.
Et voilà. En ressortant à chaque fois, donc sous l'étiquette d'exclusivité, les premiers films de la saga, tu sais, DVD et compagnie.
Oui, tout
reprise exceptionnelle, donc. En salle aussi, puisque les fameuses nuits Star Wars.
Oui, tout à fait.
J'espère qu'on pourra en avoir une un jour à Ti. Donc, sorti en VHS et en DVD à l'époque. Hein,
oui,
c'était
bah oui.
VHS, hein. De films de la première trilogie. Remasterisé, tout est fait pour faire dangereusement monter le rythme cardiaque des fans.
Tout à fait.
Jusqu'au coup de maître de sortie en salle, donc de la suite, enfin. Début, je veux dire.
Voilà, oui. Bah oui, maintenant, oui.
De la saga, donc Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme, 1999. Épisode 2, L'Attaque des Clones, 2002. Épisode 3, La Revanche des Sith, 2005. Enfin, je dirais.
Oui, parce que logiquement, le premier épisode devait s'appeler La Revanche des Jedi, mais il s'est dit que finalement, les Jedi étant gentils, ils ne pouvaient pas avoir l'esprit revanchard, et donc c'était pour le dernier épisode, La Revanche des Sith.
D'accord. Donc tout de suite, cortège de fans en costume, explosion de ventes et produits dérivés et de DVD. Donc Mr. George Lucas a tout simplement créé une nouvelle religion.
Tout à fait. Oui, 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 c'est vrai que moi je m'en rappelle. Hein, quand j'étais petit, moi j'avais la brosse à dents Luke Skywalker.
C'est vrai ?
Donc oui, oui, tout à fait.
Tu nettoyais tes dents au laser ?
Oui. C'est ça, c'est pour ça que j'en ai plus un chicot. Okay. Donc effectivement, George Lucas a quand même, je veux dire, posé son empreinte sur le monde. Ce réalisateur qui est né le 14 mai 1944 à Modesto, en Californie, et dont les parents sont pas petit, très jeune, il adore la photo, la lecture, tous les grands classiques, hein, Tom Sawyer, L'île au trésor.
C'est un viré... classique, ça, Tom Sawyer.
Bah oui, non, mais pour les Américains, ah, mon oui, cher. Donc, c'est viré à Disneyland et surtout les filles. À 18 ans, il plie sa voiture contre un arbre, 2 jours de coma, et il décidera qu'il ne sera pas pilote de course et refusera de reprendre l'affaire familiale. Il s'inscrit à l'université de Californie du Sud dans la section cinéma parce que c'est ce qui se rapprochait le plus de la photo. Et là, coup de foudre en automne 1964, il découvre l'animation et il trouve qu'il est doué et il écrase tout le monde. Il va faire comment ça s'appelle, un petit court-métrage qui s'appelle Look at Life, qui est tiré du magazine Life et qui va montrer toute la montée de la violence de la guerre du Vietnam. Il fera aussi un court-métrage qui s'appelle Fahrenheit sur un Allemand de l'Est, joué par Randall Kessler, qui sera le réalisateur plus tard de Grease. Et il est déclaré inapte au service militaire pour cause de diabète. Et donc, il échappe au Vietnam. Et c'est là qu'il va commencer à avoir l'idée de son roman de science-fiction THX-1138-4EB. Ouais, c'est un peu long, je l'avoue. Il va gagner une bourse qui lui permettra de bosser à la Warner pour $80 par semaine. Mais hélas, la Warner s'écroule et on lui permet de travailler dans un film qui s'appelle La Vallée du Bonheur avec Fred Astaire et qui est dirigé par un jeune réalisateur de 28 ans, Francis Ford Coppola. Et là, c'est là la grande amitié qui va se mettre ensemble. Francis va pousser, comme ça s'appelle, Lucas, à vraiment faire son scénario parce que pour lui, il faut vraiment un scénario béton. Donc lui, il va l'engager sur un film et pendant ce temps, Lucas va construire son film. Et évidemment, Hollywood est en pleine déconfiture, donc les deux ne savent que faire. Ford va créer la American Zoetrope à San Francisco, puisque c'est la capitale de la contre-culture américaine, et il nommera Lucas vice-président.
Une histoire de potes, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est que des potes. Là, Lucas va sortir THX 1138 en mai 70. Les dirigeants des studios ne comprennent rien. Ils veulent même couper 5 minutes du film. Ce qui fait que Lucas est de plus en plus dégoûté du système hollywoodien et qu'il veut s'en affranchir. En 71, Coppola est ruiné. Enfin, ce ne sera pas la dernière fois. Hein. Il sera ruiné tout plein de fois. Et la Paramount lui propose de monter un film qui se nomme Le Parrain.
Un petit détail.
Donc voilà, le film de Lucas sort discrètement, mais il a un beau succès d'estime. Et d'ailleurs, il y a un jeune homme qui viendra le voir et qui sera tout à fait enthousiaste.
Jackson.
De... Non, Steven Spielberg.
Ah, tu m'as fait peur, je suis à dire Steven Seagal.
Non, ce serait plutôt Don. Et donc, à ce moment-là, Lucas veut créer un autre film qui s'appelle American Graffiti en 1973 avec Richard Dreyfuss, Ron Howard, qu'on avait vu dans la série Fonzie, avec Fonzie les bonnes années, non ?
Je m'en rappelle plus. Non, les bons tuyaux.
Les bons, non, c'est pas les bons tuyaux. Non, mais c'était avec Fonzie, je m'en rappelle plus du tout des titres. Et Ron Howard, qui arrêtera sa carrière de comédien, mais deviendra réalisateur, puisque c'est à lui qu'on doit Apollo 13, Un homme d'exception, Willows, la suite de, comment ça s'appelle, de Da Vinci Code, Ange et Démon.
Ah,
donc,
oui,
c'est
oui.
Pas, ouais, c'est pas un petit. Et donc, en fait, évidemment.
Que des nullités, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, ça raconte durant l'été 1962 des jeunes qui terminent le lycée et qui vont rentrer à l'université. Il y a toute une nuit avec les voitures, les copains, enfin, tout,
oui,
toute
connaît,
l'enfance.
Ouais.
Voilà. Et donc, en fait, les studios vont pas être trop d'accord sur ce film. Et c'est Francis Ford Coppola qui va devenir producteur du film. Et grâce à lui, bah, ma foi, ça va avoir un beau succès puisque ça rapportera quand même 118 millions. De films.
Non, de dollars.
De dollars, par exemple, pardon.
Parce que 118 millions de films, il y a un souci.
Oui, pardon, excusez-moi. Donc, 118 millions de dollars de recettes. Voilà, et pour un investissement de 775 000 dollars, ce qui était encore moins que THX.
Ouais.
Et donc, effectivement, et comme Lucas n'avait pas été idiot, il avait demandé à avoir un pourcentage sur les recettes. Il est millionnaire et grâce à ça, il peut évidemment construire Lucasfilm en décembre 1973. Et c'est grâce à ça qu'il pourra évidemment commencer la guerre des étoiles. Il sera évidemment concepteur aussi parce qu'il avait remarqué que dans le cinéma, le son était très, très mauvais. Donc, il a inventé ce qu'on appelle désormais le THX, écrasant entièrement son malheureux adversaire Dolby. Donc voilà, effectivement, son THX, en référence évidemment à son film de science-fiction. Et là, une autre histoire d'amitié, Lucas Spielberg, les aventuriers de l'Arche perdue, Indiana Jones, tout le quatuor. Donc
Harrison
effectivement,
Ford.
Ouais ouais. Et puis Lucas réalise que effectivement c'est les effets spéciaux qui vont être vraiment l'avenir, que on en est vraiment aux prémices même. Et donc c'est ça, grâce à ça, qu'il va créer sa société HILM.
Reprenez, monsieur.
Et
s'appelle comment?
ILM.
Voilà, merci.
Et c'est ce qui va, parce que c'est dès les premières images du Star Wars, grâce à sa caméra de Capture Motion, c'est qui est quand même un hommage à son autre pote Stanley Kubrick, puisque c'est le fameux effet de la caméra qui passe le long des vaisseaux et qui leur donne une certaine démesure.
Oui.
Donc effectivement, dès les premières images du film, on a le vaisseau de la princesse Leia qui se fait poursuivre par un croiseur interstellaire.
D'accord, donc je vais juste balancer un peu plus de technique parce que Gwen a survolé, tel un vaisseau.
Ben oui, oui, c'est mon côté X-Wing.
D'accord, donc l'héritage Star Wars a également donc profité aux techniques de tournage cinématographique pour réaliser donc les étonnants effets spéciaux de la saga. George Lucas crée dès le milieu des années 70 le studio Industrial Light of Magic.
ILM, ouais.
Oui. Donc depuis, donc, ILM a remporté 14 Oscars des meilleurs effets visuels pour ses contributions au 7e art et continue à jouer un rôle pionnier dans ce domaine. Donc Star Wars, donc épisode 4, un nouvel espoir, hein, fut une avancée décisive en matière de technologie sonore. Le film popularisera le son Dolby et aboutit à la création du système THX et à l'introduction du son numérique désormais courant dans les salles de cinéma. Donc Lucasfilm LTD, Lieutenant. Non, d'accord, il n'était pas là. A aussi lancé le système de montage numérique non linéaire qui modifia radicalement les conditions de travail des monteurs et amena à développer le système Avid,
oui,
adopté par la majorité de la profession.
Ah oui, oui, maintenant c'est incontestable.
D'accord, je vois que monsieur est très très fort en Avid. Tu es Avid aujourd'hui. Donc les bénéfices des films donc Star Wars ont contribué à diverses expérimentations en matière d'animation assistée par ordinateur qui ont abouti à la création de l'ordinateur Pixar.
Oui.
Oui, non. Une conséquence donc plus lointaine fut la formation des studios Pixar. Hein,
voilà, oui, tout à
parce
fait.
Parce qu'on en avait parlé déjà de ça.
Oui,
Entité indépendante de réputation mondiale où sont nés entre autres succès Toy Story et Le Monde
de
Nemo.
John Lasseter, qui voilà, était vraiment le point d'orgue de ces studios.
L'histoire récente de la saga Star Wars a été marquée par une autre percée technologique des plus significatives et des plus féconde. En 2002, l'attaque des Clones a été la première grande production cinématographique à utiliser exclusivement la caméra vidéo numérique à haute définition. La revanche des Sith a poursuivi dans cette voie en introduisant une nouvelle technologie d'enregistrement sur caméra HD, la 444, hein, pour...
Ouais, pour
rester
être précis.
Technique, voilà, qui bénéficie d'une résolution largement supérieure. Un nombre donc croissant de cinéastes recourent aujourd'hui à la caméra numérique et de plus en plus de salles, notamment le Pestel, hein, s'équipent d'appareils à projection numérique.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça avait été l'une des grandes erreurs de, comment ça s'appelle, de Lucas, de vendre Pixar, puisque effectivement, après lui, ça a été vraiment un studio d'animation. Ça a été ça. Et aussi de vendre Lucasfilm à Disney. Mais bon, ça, c'est autre chose.
Mais oui, mais bon, milliard is milliard.
4 milliards, oui.
Ouais, c'est sa société, c'est pas pour
oui,
lui.
Oui. Ah non, non, mais je sais bien, mais bon, voilà quoi. Donc c'est vrai que...
Ne sois pas jaloux, Tilde.
Je ne suis pas jaloux. Hein. C'est pas grave.
Alors ?
Oui, alors. Alors, effectivement, la création de Star Wars, Star Wars. Parce qu'en fait, au début des années 70, Lucas a travaillé à un manuscrit dans lequel il narrait les exploits de Mace Windu.
Oui, je vois qui c'est.
Voilà, c'est ça, un éminent Bindu Jedi d'Opuchi. Donc tous les éléments de la saga intergalactique sont déjà là, le général Vader, la Force, le chevalier ermite inspiré de Merlin et de Gandalf, et puis aussi l'allure de son chien qui se tient debout sur deux pattes, le fameux Chewbacca.
Ah oui, oui.
Oui, tout à fait.
Le Indiana.
Voilà, c'est ça. Et puis en Han Solo, par contre, à l'époque, n'était qu'un extraterrestre à la peau verte et Luke, un vieux général de 60 ans appelé Starkiller. après, il faudra quand même plusieurs années pour qu'effectivement il commence à créer son univers et la princesse Leia et
même Yoda, je crois, il était pas vert au début, il était pas bleu. Ou...
En fait, le problème de Lucas, ça a été surtout le personnage de Yoda, puisque effectivement à l'époque on en était encore aux maquettes, hein, surtout pour l'étoile noire, mais c'est surtout aussi effectivement pour les extraterrestres. Le Jabba the Hutt, évidemment, lui sera évidemment un gros truc et oui, sera numérisé plus tard, évidemment, dans les années 90 et puis effectivement dans les dernières années, que ce soit dans la revanche du Sith ou comme ça s'appelle la guerre des clones, effectivement on revoit Jabba et voilà, effectivement il est un peu plus animé, hein.
Oui, on voit même Jabette.
Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez rappelé pendant la course. Voilà, on voit un tout petit personnage.
La course de module.
Voilà, la course de module. On voit le personnage, le mec qui fait Willow, vers la place là où se trouve Jabba. George Lucas avait aidé Ron Howard à faire Willows. Évidemment, le personnage a été reconnu. Et puis, c'est aussi...
C'est Willow ou Willows ?
Willow. Willow. Ah, oui, et d'ailleurs, le personnage, on le retrouve aussi dans comment ça s'appelle, en tant que professeur chez Harry Potter. Donc voilà, ça fait partie de toutes ces petites, effectivement, anecdotes croustillantes de la guerre des étoiles.
Oui, parce qu'on va pas pour vous parler des films à proprement dit.
Oui, mais voilà, parce que vous les connaissez. Oui. Alors moi, je voulais aussi rappeler, puisque quand même, on a parlé de Frank Oz qui offre sa voix et surtout toutes ces histoires de maquettes, puisque c'était lui qui avait fait, je crois, le Dark Crystal, hein, qui est quand même un gros film d'animation, et puis et surtout les Muppets. Je parlerai aussi de John Williams, qui est quand même un très grand musicien. Et d'ailleurs, quand Lucas avait proposé la guerre des étoiles dans les années 70, alors que le space opéra était complètement passé de mode, hein, on en était plus à d'autres genres de films, effectivement, le fait d'en plus d'amener de la musique classique alors qu'on était en pleine période disco, c'est vrai que ça jouait aussi.
Je crois que la première version qu'il avait présentée, elle était d'ailleurs sans effets spéciaux et sans musique.
Oui, tout à fait.
C'est pour ça que les studios étaient réticents.
Oui, oui, bah voilà, mais c'est-à-dire que.
C'est vrai que ça devait faire un peu louche à l'époque.
C'est-à-dire que. Et puis le tournage avait été un peu compliqué aussi à faire, donc c'est vrai que ça avait été quand même imposé.
Ils avaient tourné en Tunisie, enfin bon.
Oui, tout à fait. Et qu'il y avait
les Anglais étaient très chiants, je crois, sur les plateaux techniques de Londres. Donc,
non, et puis il y avait aussi beaucoup de tempêtes de sable. Hein. Puis d'ailleurs, en fait, c'était près du village de Tatooine, et qui est resté, puisque une des planètes s'appelait Tatooine. Et que d'ailleurs, si je me rappelle bien, les studios sont restés, qu'on peut les visiter désormais. Il y a toutes ces petits secrets. Donc voilà, effectivement, le fameux début. En fait, dans les années 70, le texte était posé sur le sol face à une caméra qui reculait tout doucement sur un rail. Évidemment, désormais, on passe par le numérique, c'est quand même bien plus simple. Je voulais aussi parler, puisque il y a tout plein de personnages quand même. Donc, je voudrais aussi rappeler, je sais pas si tu te souviens de Lando Calrissian.
Si,
oui, bien tout sûr. À fait, oui. Qui est un ami de Han Solo et un contrebandier.
On
qui
le
a
voit
réussi...
dans le 2, celui-là.
Voilà, tout
enfin,
à
dans
fait.
Dans le 2, dans.
Oui, oui. Et en fait, évidemment.
Dans contre-attaque.
Voilà, c'est ça. Et puis, il va évidemment trahir ses amis avant de s'en rendre compte. Oui. Comme un grand classique dans le cinéma. Et en fait, logiquement, cet acteur avait proposé avait été proposé pour jouer Han Solo. Donc, tu vois, Han Solo aurait pu être Black.
Oui, parce qu'on le voit dans la guerre des.
Voilà,
tout Jedi à fait. Qui pilote le. Il s'appelle le vaisseau Han Solo déjà. Ouais.
Le Falcon Millennium, voilà. Puisqu'il lui appartenait. Voilà. Il y avait toujours. Mais ça a été aussi un gros avantage de ce genre de film, c'est qu'il y avait beaucoup d'humour. Bon, oui. Peut-être plus dans les. Enfin,
dans les premiers que dans les
là, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a. Comment ça s'appelle Lucas, il avait proposé, je crois, à Christopher Walken et à d'autres comédiens. Et il avait finalement, il n'avait trouvé que Harrison Ford, puisqu'il avait Harrison Ford avait déjà joué dans American Graffiti, un tout petit rôle.
Je crois qu'il était pas très chaud quand même au début pour prendre Harrison Ford. C'est quand il a fait des, ils ont fait des essais avec les autres acteurs, ça a bien passé.
Mais voilà, c'est ça. Mais oui, parce qu'il avait ce ton d'humour et cette ironie qui allait très très bien. Donc effectivement, ça a marché là-dessus, quoi. Je voulais aussi parler de notre cher Dooku. Hein, Christopher Lee, puisque son nom veut dire poison en japonais, et donc effectivement, Christopher Lee qui fait un retour,
Dracula.
Voilà, qui fait un retour détonnant, puisqu'on on le voit aussi sous les traits de Saruman, quand ça s'appelle. Chez Peter Jackson, et puis aussi chez Tim Burton, il avait aussi fait plusieurs rôles, qu'on le voit dans Sleepy Hollow, et aussi Charlie et la chocolaterie. Donc voilà, effectivement, donc, c'est vraiment un personnage emblématique.
Mais là, il va rejouer dans les suites de Hobbit, non?
Oui, il y joue, oui, parce que, évidemment, bah, c'est-à-dire que techniquement, dans le Hobbit, c'est 60 ans avant, hein, donc ce qui est fait très très curieux, puisque techniquement, ils sont plus jeunes alors que les films sont après. Donc voilà. Il y a aussi le personnage de Boba Fett, le mercenaire, hein, il a un tout petit personnage, tout petit rôle évidemment dans les premiers, et en fait Lucas va l'utiliser pour la création des clones, puisque c'est à partir de son père qui se nomme, si je m'en rappelle bien,
ils le disent dans les films,
Jango Fett, oui.
Ah oui, dans la guerre des clones.
Oui, dans la guerre des clones, c'est à partir de son corps. Et en fait, Jango va être tué et c'est Boba qui va reprendre son
rôle. Parce que ça on le voit, moi je l'ai vu, ça a vachement mieux expliqué dans La guerre des clones, mais version film d'animation qui est sorti aussi. En petite série, petits épisodes de 20 minutes.
Bah, justement, logiquement...
Parce que ça se passe entre le 2 et le 3.
Oui, mais justement, il y a justement sur les épisodes là, qui vont être suivis, que Disney va nous offrir, il y a peut-être ce qu'on appelle la chasse que vont faire l'Alliance, en cherchant Boba Fett pour trouver évidemment Han Solo cryogénisé.
Oui, d'accord. Ouais, donc, ah, ça, ils vont l'expliquer alors.
Bah, apparemment, oui, effectivement, ça avait été une grande question.
Parce que moi, j'avais entendu dire qu'ils voulaient faire aussi un spécial film que rien que sur Yoda.
Oui, aussi, mais, et puis mais même, je crois qu'il y a Erwan McGregor qui a poussé qu'on fasse aussi un truc spécial sur Obi-Wan. Donc,
j'ai l'impression que ça va tourner comme les Marvel. Maintenant que Disney a racheté, ça va être tout et n'importe quoi.
Bah oui, je voulais aussi parler du personnage de Jar Jar Binks, qu'on voit effectivement au début, et qui lui, par contre, ça avait été rejeté. Tu vois, autant il avait commencé donc ce qui était dans la guerre des clones, puisque évidemment c'était son Naboo.
Oui.
Et son côté un peu ridicule a posé quand même beaucoup de soucis, puisque en fait il a été vachement poussé vers la porte dans les épisodes.
Dans le premier, c'est la menace fantôme.
Voilà, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion, c'est quand il décide de bannir le chancelier. C'est à ce moment-là que George Lucas fait un hommage à Steven Spielberg, puisque si vous regardez bien à Coruscant, là, dans le Grand Concile, eh ben, on voit des E.T.
D'accord.
Il y a des tout petits E.T. qui sont en second plan, on les voit. Donc voilà. Donc les E.T. font partie de l'Alliance.
Puisque tu parles donc des grands acteurs qui font des hommages, là, je vais juste citer une phrase. Parce que donc Star Wars a ouvert au cinéma des horizons illimités, dit Mr. Peter Jackson, un réalisateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux et admirateur déclaré de la saga de George Lucas. Aucun film, non, c'est toujours le même qui parle. Aucun film n'aura davantage stimulé notre faculté d'émerveillement. L'hommage de Jackson est un signe parmi d'autres de l'attrait inépuisable de Star Wars.
Bon, là, on bondit un peu dans tous les sens, mais c'est tout à fait normal.
Et puis c'est notre émission qui est comme
c'est
ça.
Hein. Oui, parce qu'effectivement, moi, je voulais aussi, puisque tu avais commencé avec tout ce qui était les Jedi, mais c'est vrai qu'il y a quand même, ça fait quand même super telenovelas brésiliennes, hein, quand même, les Jedi, puisque, je veux dire, tu as Yoda, qui est le maître de Dooku, qui est le maître de Qui-Gon. Yoda est aussi le maître d'Obi-Wan. Obi-Wan est le maître d'Anakin. Et ensuite, il sera celui de Luke. Et maître Yoda achèvera le boulot. Donc, il y a quand même une histoire. Ça n'arrête pas de se couvrir. Et il y a aussi ce que je voulais aussi
savoir. Pourtant, un Jedi ne peut avoir qu'un seul Padawan. Quoi. C'est ça qui est...
Oui, non, mais à la fois. Il peut avoir à la fois. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser aussi, c'est la fameuse histoire de la main droite. Parce que si tu te souviens bien, plusieurs personnages perdent la main ou le bras droit. Que c'est une référence à la main droite du diable. Puisque dans l'attaque des clones, Obi-Wan coupe le bras de Wesel, la chasseuse de primes. Le comte Dooku, celui d'Anakin, dans l'Empire contre-attaque. Luke Skywalker ampute celui de Wampa. Et Dark Vador, la main de Luke. Dans le retour du Jedi, Luke tranche le bras de Dark Vador. Donc effectivement, il y a toujours une histoire de coupage de bras.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? Bah ça, c'est à savoir. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, puisque dans l'épisode 7, il y a aussi du coupage de bras. Donc, décidément.
C'est vrai ?
Ah ouais. Effectivement, il y a du coupage de bras. Je sais pas pourquoi.
Mais il n'est pas fait encore l'épisode 7.
Non, mais moi j'ai le scénario. Donc voilà.
Tu as le scénario de l'épisode 7 ?
Oui, tout à fait. Mais je raconterai vers la fin.
C'est possible ça ?
Non, c'est parce que techniquement.
C'est toi qui l'as écrit ?
Non, Georges Lucas l'a écrit.
D'accord.
Donc c'est pour ça. Et oui, parce que ce qu'il faut savoir aussi, puisqu'on en était, puisque effectivement on voit que quand même George Lucas a quand même vraiment la bosse du commerce, c'est-à-dire qu'avant qu'il fasse à l'écran, il avait contacté un certain Stan Lee
ah.
pour faire La Guerre des Étoiles en comics. Et ce qui fait qu'il a retardé la sortie de Star Wars au mois de mai, alors que logiquement ça devait être vraiment au début de l'année, pour que justement il y ait un gros buzz et qu'effectivement tous les ados viennent voir le film. Donc tu vois, il était quand même pas idiot. Est-ce que tu savais que c'était Keira Knightley qui jouait la sosie de Nathalie Portman?
Dans quoi?
Eh ben, tu te rappelles dans La Guerre des Clones,
oui.
la sosie. Eh ben, la sosie, c'est Keira Knightley. Celle qui joua dans dans Pirates des Caraïbes.
Oui,
eh
d'accord.
Ouais, tout à fait. Puisqu'elle se ressemble, effectivement.
Elle était à l'affiche?
Non, elle n'était pas à l'affiche. Enfin, si, elle est à l'affiche, mais je veux dire, à l'époque, elle commençait. Je crois qu'elle avait que 16 ans. Donc,
mais elle n'avait pas encore fait Joula comme Beckham?
Non, voilà, c'est ça. Et puis, en plus, je crois que. Elle était plus grande que Nathalie Portman. Donc voilà.
Qui en même temps n'est pas dû.
Oui, et puis il y avait aussi, puisque là on est dans les copains-copains, Sofia Coppola avait aussi joué, une des servantes de
Francis.
Voilà, et puis son fils aussi, Coppola aussi, qui jouera un garde.
Oui, mais de toute façon, on peut aussi parler de l'évolution technique, rien que sur le visuel, parce que tu vois, au début, tu n'avais qu'un sabre laser.
Oui, tout à fait.
À la fin, là, dans les derniers qu'ils ont fait, donc tu vois qu'ils ont les doubles épées laser.
Oui, mais Dark Maul, il a le double sabre. Alors effectivement, là, on va aller carrément dans l'intox, puisque le numéro 7, c'est vraiment du tout et du rien. C'est, je crois qu'il y a même des gens qui commencent à attaquer à deux sabres. Donc voilà.
Ah, mais ça, c'est courant maintenant dans la série d'animation que je parlais de Clone Wars. C'est souvent qu'on voit ça. Quoi.
Moi, ce que je voulais aussi parler, puisque effectivement, on se retrouve dans cette dualité des Jedi et des Sith. Alors, qu'est-ce qui permet que le Jedi a sa force? C'est les midi-chloriens.
Ils le disent.
Voilà, c'est ça. C'est Yoda qui l'explique, que c'est des micro-organismes que l'on rencontre dans toute cellule vivante de la galaxie. Et d'ailleurs, la grande question est, puisque
Anakin en avait trop.
On dirait
que
même.
C'était l'élu aussi.
Ouais, voilà, c'est ça, puisque apparemment, d'après sa mère, en fait, il serait né spontanément, avec spontanéitisme. Donc voilà, il serait comme, effectivement, comme tu disais.
Comme moi, quoi.
Non, surtout Jésus, non, puisque effectivement Jésus aussi est né spontanément. Quoi.
Il avait des midi-chloriens?
Oui, pour marcher sur l'eau, ça sert quand même. Et aussi ses disciples, c'était tous ces petits padawans, ils étaient 12 par contre.
C'était pas des padawans, c'était des apôtres.
Ouais, voilà, c'est ça, oui. Et puis je voulais aussi parler de notre fameux ami R2-D2, puisque
c'est
je veux dire, c'est ça, il est quand même à l'origine, puisque c'est lui qui va aider.
Civil, soit guerrier, les droïdes, il y en a beaucoup.
Et puis, qui suit quand même pas mal la princesse Padmé. En fait, son nom vient en fait d'une bobine. Puisque, George Lucas a eu l'inspiration du nom du droïde R2-D2 pendant la post-production d'American Graffiti. En effet, il aurait porté son regard sur une bande magnétique sur laquelle était inscrit bobine numéro 2. Dialogue numéro 2. Ce qui est en anglais, ça donne Real 2, Dialogue 2. R2-D2.
C'est pitoyable ton anglais.
Oui, merci, c'est ça.
Et C3PO?
C3PO, en fait, le nom français de C3PO au moment de sa sortie de la première trilogie. En effet, pour plus de cohésion pour les doubleurs, de remplacer C3, prononcé en anglais C3Z3, plus par C3. Donc, c'était quand même plus logique, voilà. Donc, la nouvelle trilogie redonne son nom d'origine au droïde en même temps qu'elle relève ses origines. Puisqu'évidemment, C3PO, c'est la construction de Dark Vador.
Oui,
c'est ça.
Ah, oui.
Oui, et puis là, on bondit dans tous les sujets. Ça va être super sympa pour les éditeurs, mais c'est pas grave. Puisque c'est vrai que c'est quand même super lourd comme film à parler en une heure, quoi. Puisque on va se retrouver évidemment puisqu'on a parlé des Jedi, mais aussi des Sith, puisque en fait, on a le fameux Dark Sidious. Donc l'empereur Palpatine, qui d'ailleurs avait joué, c'est lui qui joue celui dans les années 70, comme celui de voilà, à part qu'ils ont dû le rajeunir, puisqu'effectivement c'est le même.
D'accord.
Tout à fait, qu'on reconnaît d'ailleurs très bien
qui
son menton
pas,
d'ailleurs.
Ouais,
voilà, c'est ça, puisqu'il a quand même lui trois disciples, puisqu'il a le Dark Maul, la Dark Tyrannus, qui est le comte Dooku.
Oui.
Et évidemment, le dernier, mais non des moindres, le Dark Vador. Alors évidemment, Dark Vador, c'est Anakin Skywalker, c'est toute la famille des Skywalker, puisque il y a sa mère qui a été tuée, donc c'est là où il prend la décision de tuer tous ces petits monstres du désert, et ouais. qui c'est le premier pas vers le côté obscur. Elle qui a épousé le fameux Clegg Lars, qui va donner évidemment Owen Lars, à qui sera confié Luke. Puisque effectivement, Padmé et Anakin ont eu des enfants, Leia, qui sera elle confiée à Bail Organa, qui est en fait l'un des, comment ça s'appelle, des derniers résistants de la oui. République. Mmh. Donc voilà. Oui, alors, puisqu'on en est à célébrer les grands personnages, effectivement, comme je l'avais déjà dit, le nain qui joue R2-D2, ça a été le même sur les 6 films. Comme le 6, C3PO aussi, c'est un acteur qui était un mime, si je me rappelle bien. Et aussi, c'est le fameux Wookie, c'est aussi le même acteur, puisque c'était un mec qui mesurait 2m12. Hein. C'est aussi le même qui va faire, qui fait les 6.
Et d'ailleurs, je crois quand il était malade, cet acteur, la doubleur ne pouvait pas le remplacer, parce qu'il n'y avait pas du tout la même gestuelle, ça donnait pas le même rendu.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que.
Mais il parle de le tuer dans le.
Oui,
dans
tout
le
à
7,
fait. Oui, tout à fait, puisque j'ai le scénario du 7. Donc voilà, si vous voulez qu'on se lance dans le 7.
Oui, allez.
Alors le 7 sera, puisque effectivement,
2015, hein.
Disney a racheté Lucasfilm pour 4 milliards de dollars et a envie de créer des épisodes au-delà du 9, hein, carrément. Donc c'est ça, à raison d'un film tous les 2 ans. Donc c'est le prochain sera fait par J.J. Abrams, celui qui a fait quand même les Star Trek, le 1 et le 2, donc qui va prochainement sortir Into Darkness, la série Lost et Super 8, qui était quand même dont Spielberg était producteur.
Par contre, le scénariste, c'est pas celui qui a fait Toy Story et non, t'as pas entendu.
Non, ça j'ai. Donc voilà, puisque effectivement, on était parti, comme je l'avais dit, sur la track de Han Solo avec Boba Fett, et il y a aussi le scénario qui était parti de la Nouvelle République. En fait, c'est les suites des aventures de Luke.
Oui, c'est Luke, après le retour du
voilà,
Jedi.
Alors, Luke devient général de la République et il crée un nouvel ordre Jedi. Il est aidé par Yoda et Obi-Wan Kenobi, qui sont sous forme d'esprit.
Oui,
ils sont décédés. Donc, ils construisent sur Ivan IV une école. Manque de peau, et là, c'est vraiment pas de chance, c'est là où vivait le plus grand des Sith, Ekar Kun, qui réussit à vaincre la mort et entraîne 2 élèves vers le côté obscur. Donc, ça rappelle un peu le nécromancien le Bilbo. Et évidemment, il est battu par les élèves qui s'unissent derrière Luke. Palpatine avait, lui, créé un laboratoire de clones, spécialement pour lui, et en fait, il fait transférer son esprit dans un clone. Et il attaque la Nouvelle République. Et il veut Luke comme apprenti. Là, Leia va intervenir et son vaisseau frère l'amener vers le côté de la lumière. Han Solo tue définitivement Palpatine. Donc, Han Solo et Leia vont se marier,
voilà.
ont 3 enfants. Yacen Solo qui deviendra un seigneur Sith. Et qui tuera sa tante Mara Jad, donc la femme de Luke, et sera détruit par sa sœur jumelle Yana. Chewbacca se sacrifie pour sauver Anakin Solo.
Anakin Solo ?
Oui, Anakin Solo, oui. Oui, c'est le 3e enfant.
Ah d'accord.
Voilà. Et en fait, on a aussi présenté un nouveau personnage, donc je ne sais pas comment
il devrait y avoir plein de nouveaux personnages.
Oui, mais voilà, c'est ça. Puisque si tu t'en rappelles du fameux ordre 66. Tu sais, c'est le fameux ordre que Palpatine donne pour que tous les clones tuent.
Oui.
Voilà. Mm. Et il y en a un qui va échapper à ce massacre et qui a un joli nom qui s'appelle Sharad Eight. Sharad Eight, et en fait, n'était pas à ce moment-là quand les clones veulent le tuer. Mm. Lui, il arrive, il tue les clones et il s'en va à Tatooine, puisqu'il était de là-bas. Il devient le chef des Tuxen et commence à attaquer les fermiers. Là, Obi-Wan, qui était là pour protéger Luke, intervient et lui coupe la main. Voilà, c'est ce fameux-là. Et voilà, et il lui coupe le bras et il lui relève son masque. Il ne peut plus être le chef des Tuxen, il est poussé à l'exil, il devient mercenaire, puis il arrive sur une planète où il découvre un sort de, je ne sais pas comment, truc virtuel des Sith qui lui laisse un message et il devient le disciple du seigneur Sith Xoxan. Et il décide de créer un nouvel ordre Sith. Il attaque sur Coruscant le nouveau palais des Jedi.
Voilà.
Et veut créer le nouvel empire galactique. Et donc il décide d'éliminer l'alliance galactique et le nouvel ordre Jedi. Il tue l'empereur Rohan Fell et devient empereur pendant 7 ans. Eh oui, les gars. Et, mais hélas, il est mourant, pas de chance. Et le seul qui peut le sauver, ce n'est autre que Cad Skywalker qui peut le soigner. Et là, évidemment, il meurt dans son duel contre Cad. Pas Olivier, hein, Cad Skywalker. Hein. Donc voilà. Donc, et ce personnage-là serait joué par Carl Urban, qu'on voit dans Star Trek, qui joue le professeur McCoy, et qu'on voyait aussi, puisque c'est le néo-zélandais qui joue aussi dans Red, le fameux agent Cooper qui était contre Bruce Willis.
D'accord.
Donc voilà, c'est apparemment. Et son père ne serait autre que Ian McKellen, c'est-à-dire Gandalf. Donc voilà. Évidemment, les rôles de.
Et ça serait le 7, ça.
Voilà, c'est ça. Enfin, 7, 8, je sais pas, parce que ça me paraît long, donc je pense que c'est l'épisode. Évidemment, Luke serait joué par Mark Hamill.
Oui,
Leia serait jouée par Carrie. Et
c'est le retour des momies.
Donc,
ouais.
Voilà, ce serait. Donc d'où la proposition amusante de certains comme internautes de voir Michael Haneke faire le prochain Star Wars, évidemment, le retour des momies, comme tu aimes tant le dire. Donc voilà, effectivement.
Il y aurait aussi Harrison Ford dedans.
Voilà, c'est ça. Mais oui, puisqu'il reprendrait le rôle de Yann. Mais en fait, disons
ils ont dû prendre une claque, les deux, là.
Bah, c'est... Oui, alors, oui, j'ai vu les images de Marc, et effectivement,
surtout
il a quand même.
Qui était vraiment une spécialiste des addictions, je crois. En tout
oui,
genre,
oui,
là.
Tout à fait. Oui, oui. Bah, je pense que c'est un peu le défaut de ce film, et finalement, enfin, de cette trilogie. C'est qu'elle a porté au nu des acteurs, mais elle les a tellement portés au nu qu'ils n'ont pas pu avoir de suite. Il n'y a que Harrison Ford, et grâce à George Lucas, puisqu'il l'a proposé dans, comment ça s'appelle, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, donc
d'Indiana
Jones, et de Ridley Scott, puisqu'il l'a fait pousser dans Blade Runner. Oui, qu'il l'a poussé dans Blade Runner. Donc qui lui a ouvert vraiment une porte de sortie, quoi. Comme je disais, ça va être surtout poussé sur la nouvelle génération plus que les anciens. Je pense que les anciens vont avoir plus des petits rôles, mais c'est surtout
mais ils seront que dans le set, je crois, les anciens.
Bah après je sais pas moi parce que après il y a beaucoup d'intox.
Moi j'avais lu que c'était que dans le set, mais après comme tu dis il y a beaucoup de rumeurs, on sait pas trop à qui s'y fier.
Moi je vois tout le scénario que ça crée puisque j'avais même une autre histoire où il y avait un dernier site et qui avait décidé de détruire l'univers et qu'effectivement c'est les élèves de Luke qui vont le contrecarrer. Donc voilà.
Ouais, bon. Après on verra bien. Donc juste une petite phrasesse sur de Mr. George Lucas en 2005, hein, c'est pour dire son changement, tu verras après je te dirai en 2012 ce qu'il dit. Donc en 2005 ce Mister disait: je ne laisserai personne d'autre diriger les épisodes 7, 8 et 9, c'est la fin, je ne veux pas que d'autres personnes fassent d'autres épisodes de la guerre des étoiles, il y a d'autres possibilités, des livres, mais des films, des longs métrages, non, c'est quelque chose qui m'appartient.
Ouais.
Oui. Hein. Et en 2012, Monsieur George Lucas, hein, toujours le même. Donc, il est maintenant temps pour, après avoir vendu, hein.
Oui, bah oui.
Avec ses milliards en poche.
Oui, voilà, c'est ça.
Il est maintenant temps pour moi de passer Star Wars à une nouvelle génération de réalisateurs. J'ai toujours cru que Star Wars me survivrait, et je pense qu'il était important de mettre la transition en place de mon vivant.
Voilà. Oui,
c'est beau ce changement.
Oui, parce que,
hein.
Parce que quand même, Lucas, c'est It is money, parce que évidemment, t'as les Lucasfilm. Donc les films, les séries télé, puisqu'il avait fait la jeunesse d'Indiana Jones et le truc sur les Ewoks.
Mais à Disney, il a vendu que Lucasfilm, il n'a pas vendu ses effets spéciaux.
Oui, non, mais voilà. Non, voilà. Et donc les Entertainment Propriété, donc qui lui a rapporté quand même 150 millions de dollars de recettes. ILM, qui lui a donc ses effets spéciaux numériques, qui lui a rapporté 200 millions de dollars. Oui. Skywalker Sound, donc la post-production de son numérique, 75 millions de recettes. Les LucasArts, donc tous les jeux vidéo, 100 millions de dollars de recettes. Les Licensing, donc les licences merchandising, pardon, 650 millions de dollars de recettes. Et les Lucas Online, donc le commerce en ligne, 25 millions de dollars de recettes.
Voilà. Oui, il a une retraite tranquille.
Oui, il a une retraite tranquille. Après, effectivement, c'est vrai que, comme tu l'avais dit au début de l'émission, c'est vrai que Lucas, il a fait peu de films.
Il a bien dirigé le reste.
Mais voilà, c'est ça. Et je pense que lui, ça l'intéresse pas d'être vraiment réalisateur, parce qu'en fait, il a eu un très mauvais souvenir avec THX et avec American Graffiti.
Puis il a vachement souffert sur le premier, La Guerre des Étoiles.
Oui,
aussi.
Non, mais et puis oui, tout à fait. Ça mais c'est surtout son rapport avec comment ça s'appelle, avec les studios. Mmh. Et je pense que ça lui a porté vraiment préjudice. Enfin, pas préjudice, mais ça.
Un peu dégoûté du monde du cinéma.
Ouais, voilà, c'est ça.
Pense.
Et comme avec Ford et puis Steven Spielberg, c'est-à-dire qu'on est arrivé à une génération. Et on en avait déjà parlé pour la Nouvelle-Zélande, que évidemment Peter Jackson là aussi, puisque je me rappelle qu'à un moment Lucas il a dit: Moi, ce que je déteste chez Hollywood, c'est que ceux qui dirigent ne connaissent rien, mais absolument rien au cinéma, qui ne vont jamais dans les salles et qui préfèrent voir les DVD.
C'est pas nouveau ça. Ouais, ouais.
Mais voilà, c'est ça. Et je pense que ça, ça l'a dégoûté. Alors d'un côté, c'est ce qui lui a permis, évidemment, par un superbe coup du sort, avec tout ce qui est merchandising et tout l'univers des geeks, de s'enrichir et de devenir indépendant et de créer tous les effets spéciaux,
c'est ça,
ce qui lui a permis effectivement d'être libre et de pouvoir faire ce qu'il avait envie. Même si techniquement il fallait quand même passer par la case.
Oui, parce que le 2, l'Empire contre-attaque, c'est lui qui a financé. Quoi.
Oui, mais voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça porte quand même, je pense, un gros problème, surtout dans les histoires où effectivement on est un peu en crise et que évidemment Hollywood a envie de faire du super bénéf. Alors le gros bénéficiaire.
C'est ça qui est calculé, toi.
Oui, non, mais le gros bénéficiaire en ce moment, c'est Disney, puisque effectivement, grâce à toutes ces histoires de comics, ça s'est fait des millions. Et effectivement a pu racheter Lucasfilm et effectivement se lancer dans la magne au pognon, puisqu'ils avaient loupé le Seigneur des Anneaux et les Harry Potter.
Ils n'ont pas les produits dérivés, il faut le préciser.
Oui, non, mais ça je suis d'accord, mais bon, ouais, je pense pas qu'ils vont faire un parc à thème, puisque effectivement Pirates des Caraïbes était un manège à l'origine, hein, avant de devenir un film.
D'accord.
Donc voilà. Donc effectivement, donc nous attendons avec. Alors par contre,
2015 le film.
2015, ouais, c'est ça. Donc à raison d'un film tous les deux ans. Donc.
Déjà, ils ont dû commencer à recruter.
Ouais,
alors.
C'est ça. Ben oui, oui, mais je pense qu'il va y avoir quand même pas mal d'intox.
Dans les prochains mois, on vous tiendra au courant. Tu n'as plus rien à dire. Une petite
non.
conclusion.
Eh ben moi, je dirais que effectivement.
Moi, je dis quand même bravo, hein.
Ah ben, moi, je dis bravo, excellent.
Bravo Gwen.
Oui, tout à fait, merci. Moi, je dis bravo à Georges. Bravo à l'école des barbus. Bah oui, puisque Georges, puisque Francis, puisque Steven, puisque Stanley, ce sont le grand quatuor du cinéma américain et indépendant, rappelons-le quand même, donc ce qui veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Donc effectivement, c'est un univers dans lequel on a grandi tous, hein, pour nous, trentenaires et quarantenaires. Et que,
là,
effectivement,
on a fêté les 35 ans.
Oui, et que moi, franchement, j'ai adoré. Effectivement, quand j'ai appris qu'il y allait y avoir une suite, c'était vraiment magique. Oui. Oui, enfin, qu'il y allait y avoir les premiers épisodes. Oui. Donc, effectivement, c'était magique. Ça, par contre, il y a eu un peu des effets bizarres où tu te retrouves avec des films qui commencent avant et qui ont l'air bizarrement plus modernes que les films qui seront logiquement placés dans le futur. Mais bon, voilà, effectivement, je pense que le cinéma comme le théâtre, ça marche une fois que le rideau s'ouvre et que la salle s'éteint. Oui, effectivement, on est projeté vraiment dedans et vraiment, rien que le début de la revanche des Sith, quand Obi-Wan et Anakin partent à la recherche de Palpatine dans ce furieux dédale de vaisseaux en guerre, moi j'ai comme qui dirait kiffé ma life, parce qu'effectivement, là, t'es vraiment dedans, quoi.
D'accord, c'était la conclusion de Monsieur Gwen, donc moi je vais vous dire la mienne, plus tard de terre. Parce que moi, je ne voyage pas. Donc, aussi riche que divers, hein, l'esprit donc Star Wars se déploie à partir de certaines constantes dont Lucas n'a jamais dévié, ce qui est déjà bien, moi je trouve. Il est vraiment resté fidèle à lui-même sur les 6. Là. Donc, c'est à la fois donc, une grande aventure spatiale, un voyage épique à travers donc, les ténèbres et la lumière, la confrontation du bien et du mal, la rencontre d'un père et d'un fils, hein.
Bah oui,
il faut le dire aussi.
Oui,
Star Wars donc, se compose de 6 films, mais il raconte de bout en bout une seule et même histoire, explique Mr. Lucas. Donc, c'est sa phrase à lui. Durant l'écriture et la réalisation de ces films, j'ai toujours eu l'intention de boucler la boucle. Désormais, les gens peuvent voir les 6 films à la suite tels qu'ils furent initialement conçus.
Oui, puisque effectivement, à la fin, quand l'Empire est tombé, effectivement, on revoit l'image d'Anakin, on voit jeune, puisque là, ils ont fait par effet numérique, il y a Yoda donc et tous les grands maîtres.
Ah, tu veux dire dans le Retour du Jedi.
Ouais, hein, c'est ça, oui, effectivement, oui, oui.
Oui, qu'à la fin.
Bah oui, mais c'est la fin, c'est la chute de l'Empire. Et donc voilà. Et,
comme il faut préciser.
Oui, ouais. Tout à fait, tout à fait. Par contre,
Disney, j'espère qu'ils vont pas nous pondre des merdes.
Ah bah moi, j'ai peur. Moi, ce que j'aimerais bien pour le prochain, s'ils peuvent, hein, c'est nous faire des Jedi féminins. Puisqu'effectivement il y a Leia, mais effectivement puisqu'il y avait
pourtant il y a des Padawan, on le voit à l'école.
Oui, mais tout à fait, il y a des Padawan, et puis il y avait la fameuse là, celle qui a les grandes couettes là, que je ne me rappelle plus de son nom, qui avait eu son histoire évidemment dans les séries animées, puisque il y a Obi-Wan, oui. Et voilà, et apparemment elle avait sa propre histoire.
Ahsoka s'appelle.
Ouais, voilà.
Mais elle abandonne, elle, j'ai regardé la série et elle abandonne.
Ouais, OK. Bah oui, mais en même temps, logiquement dans le film elle est tuée, donc
c'est triste.
Bah oui, oui, c'est ça, c'est triste, mais bon. Donc effectivement, voilà. Et ben mes chers auditeurs, nous allons nous rapprocher avec le Falcon Millennium en saut de l'espace jusqu'au Pestel.
On va passer dans l'hyperespace.
Donc accrochez-vous, hein, parce que le Falcon Millennium RDWA, il est pas super solide. Je fais mon Chewbacca.
J'espère qu'il s'est pas entraîné. Il a fait
donc
ça
effectivement, comme oui, oui, oui. Donc effectivement, sublime créature de Richard Lagravanese.
Lagravanese.
Alors moi, j'irais quelque part le Twilight version sorcière. Hein.
Ouais. Ça n'a rien à voir, monsieur.
Oh bah si, quand même. Hein.
C'est pas du Twilight.
Oh bah c'est un peu... Oh bah, excuse-moi, le mec, il est dans son école. Voilà. Là, par contre, c'est dans le sud, et pas dans le nord, comme avait été Twilight. D'un coup, il y a une jeune fille qui débarque. Oh, elle a des étranges pouvoirs. Donc, on a inversé le côté, puisque c'est elle qui a des
c'est
pouvoirs.
C'est encore l'adaptation d'un roman, quoi.
Voilà, et qu'à ses 16 ans, il faut savoir si elle va passer du côté obscur ou vers le côté de la lumière. Excuse-moi, c'est quand même
c'est
de cul-cul, l'autre
bleu. Tu veux dire.
Moi, je dirais pas. Moi, je dirais surtout pour les ados, quoi.
On va faire quand même. On va parler des gens, parce que donc dedans, vous trouvez donc Amy Rozum, hein, qui joue la dame que Monsieur Gwen a prédit. Il y a Jeremy Irons,
oui,
Emma
oui.
Thompson,
oui.
Viola Harris, Alice Englert et donc notre amie Aldin Ehrenreich. Donc c'est Ethan, hein.
Oui, oui, Ethan, oui.
Hunt.
Non.
Ah, pas lui.
Non, c'est Wade.
Ah,
comme
d'accord. Donc, un jeune.
Comme,
Oui, ce n'est pas Mission Impossible.
Voilà.
Donc, un jeune lycéen, comme tu disais, quoi, qui mène une existence pourrie,
ouais,
dans une petite
dire.
Ville du Sud à taper des Noirs, aux États-Unis.
Oui, dans Mississippi Burning, on l'a vu.
Mais des phénomènes inexplicables se produisent.
Non !
Si.
Oh merde !
Coïncident avec l'arrivée d'une nouvelle élève.
Oh, comme c'est ballot.
La princesse Lena. Chuchanès. Duchanès.
Duchanès. Duchanès.
Donc, malgré donc, la suspicion et l'antipathie du reste du village envers la demoiselle, oh. Ethan est intrigué par cette mystérieuse jeune fille et se rapproche d'elle.
Oh,
il découvre que Lena est une femme. est une enchanteresse, pardon.
Et oui.
Un être donc doué de pouvoirs surnaturels et dont la famille cache un terrible secret.
Et oui. Secret Story.
Okay. Donc, on aime ce goût de la très bonne série B.
Oui, hein. On peut
on
lire.
On va pas chercher plus loin. Oui, on peut lire. Donc, faites sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça s'est vu.
Ouais.
Donc, c'est certes banal, mais.
Mais. Joli.
La finitionnisme. Je sais pas quoi, visuel. Donc, l'élan narratif et le charme tranquille des acteurs nous vengent de tous les Twilights du monde.
Oui.
Donc, on va dire qu'il y a une heure brillante et une heure de débandade moralisante.
Oui,
et
puis je pense...
God We Trust, là.
Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et ça me fait penser un petit peu aux âmes vagabondes qui vont être un peu la suite. Effectivement, là, par contre, ça va être des extraterrestres qui prennent possession de ton corps et qu'il va y avoir la rencontre d'une extraterrestre et... d'un être humain.
Donc là, on vous laissera donc faire votre choix si vous
ouais,
voulez voir. Si vous êtes amateur de ce genre de film, quoi.
Bah,
comme
si
tu
vous
disais,
aimez
Gwen
le fantastique,
et
ouais,
et
moi je pense que c'est vraiment.
Comédie, romance,
voilà,
compagnie.
Ça. Voilà, c'est ça.
Mais bon, il y a un très beau jeu visuel.
Oui, oh, bah, souvent. Hein. Alors ensuite, il y a Les Nuits avec Théodore de Sébastien Bette BD. Pas Bec BD, hein, rien à voir. Hein.
Non, c'est Bye, l'autre. Et là, c'est Bette.
Ouais, c'est ça. Bette. In Bette with Madonna, comme disait l'autre.
Avec Pio.
Oui, avec Pio Marmaille.
Oui.
Voilà, c'est ça. Agathe Bonitzer, Fabrice Had et Sarah Le Picard. La surgelée.
C'est nul. Donc, c'est une fête dans un appart parisien. Donc, Théodore rencontre Anne. Ensemble, ils errent dans la ville endormie. Non, il n'y a pas de Z.
Oui, non.
Avant donc d'escalader les grilles. Bon, pourquoi ils escaladent? Ça, c'est mystérieux.
Mais
c'est...
ils sont jeunes, ils sont amoureux.
Des grilles du parc des Buttes-Chaumont.
Ouais.
De cette nuit clandestine, donc naît une étrange attirance pour ce nouveau territoire, bon, qui est le parc. Chaque soir, oui, sitôt le soleil couché, le parc devient leur refuge. Mais bientôt, ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls.
Oui, tout à fait.
Oui, donc de quoi vous donner donc envie de découcher une troublante rêverie romantique dans un Paris de légende ou tout simplement un film imparfait au charme certain.
Oui, et puis je voudrais rappeler que le dimanche 24 à partir de 18h30, il y a une soirée en compagnie du réalisateur.
C'est un dimanche ?
Oui, bah oui, c'est quand c'est le dimanche 24, c'est souvent le dimanche, oui. Et donc, ce sera précédé de La Vie lointaine, qui est un court métrage.
Il y aura à manger, je crois.
Voilà, c'est ça, tout à fait, grâce à nos amis du Loco, entre les films. Et donc, il a reçu le Grand Prix Patin 2009, dit le roulage. En fait, c'est l'histoire.
Patin roulage, mais qu'est-ce que
tu veux ? Bah oui, roulage de patin. Donc, ça, en fait, l'histoire de La Vie lointaine, c'est durant un hiver doux, Martin qui vient de s'installer dans la maison isolée qui fut celle de son père, et une nuit à la lisière des bois, il rencontre un curieux homme, Haruki. Haruki.
Ah pardon.
Non, pas Wookie. Et qui l'invite dans la forêt pour qu'il rencontre un étranger, Yoshido, réalisateur japonais qui, assisté de Mathilde, s'apprête à tourner La Vie lointaine, adaptation du roman éponyme d'Haruki. Apparemment, c'est, il paraît-il, assez
quoi,
beau.
C'est un court-métrage ?
C'est un court-métrage, oui. Qui
50
sera...
minutes.
Alors. Ouais, 56 minutes, oui. Donc voilà, effectivement. Donc c'est apparemment assez beau
même,
visuellement, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était assez ennuyeux.
C'est pas bien de dire ça.
Bah oui, mais bon.
Il faut le dire, d'accord. Donc Les Nuits Théodore aussi, je crois qu'il dure qu'une heure.
Oui, 1h07, oui, tout à fait. Donc c'est donc une soirée spéciale Pestel.
Donc, ici et là-bas.
Voilà, c'est ça, d'Antonio Méndez Esperanza.
Film espagnol, hein, comme l'a bien prononcé Mr. Gwen.
Oui, et mexicain et américain.
Qui a eu le Grand Prix Nespresso à la 51e semaine.
What else?
Semaine dans critique des Cannes 2012.
Oui, tout à fait.
Donc, après avoir travaillé des années aux USA, Pedro rentre chez lui dans un petit village de montagne à Guerrero, au Mexique.
Si.
Il y retrouve donc ses filles, donc devenues plus âgées mais aussi plus distantes, et sa femme toujours aussi souriante. Donc cette année, les villageois s'attendent à une récolte abondante et il y a du travail en ville. Toutefois, étant habitués à la précarité, leur intérêt se tourne principalement vers leur famille, où les opportunités de travail, donc plus au nord, de l'autre côté de la frontière.
Oui, et puis il y a aussi le personnage Pedro, qui est joué donc apparemment par Pedro de Santos Juarez, va créer un groupe de musique, les Corpacking. Donc
d'accord.
Voilà.
C'est une délicate chronique donc familiale aux accents naturalistes.
Non. Oui, naturaliste, oui.
Oui, c'est bon.
Oui.
Et au cadrage somptueux, donc c'est une chronique, on va dire, lumineuse et sérieuse d'une modeste famille mexicaine, donc c'est un film sensible et délicat.
Oui, c'est le bonheur de vivre parmi les siens, et rappelons-le que c'est quand même son premier film.
C'est un film en VO. Hein.
Oui, tout à fait.
Et pour clore cela,
le samedi 23 mars à 18h,
oui.
Les Voix de ma sœur, donc qui est un court-métrage là, de 49 minutes de Cécile Philippin sur la schizophrénie.
À quoi ?
La schizophrénie.
C'est un documentaire, alors.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est dans le cadre de la Semaine nationale de la santé mentale. Je t'y ai inscrit, d'ailleurs, Gwen.
Oui, c'est ça. Ah, en présence du docteur Bacri, donc Jean-Pierre. Hein.
Ah bon ?
Oui, et Agnès. Non, docteur Bacri, qui est psychiatre au CHS de Valmont.
Le Valmont, c'est l'hôpital spécialisé de Montélégé.
Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, les membres du réseau DIWA de prévention du suicide et de l'UNAFAM.
Donc, en fait, ça parle de Les Voix de ma sœur. Ça parle comment vivre avec une schizophrénie. Schizo. Ah bon. Comment en parler, comment gérer le lien avec les soignants, avec la famille ou tout simplement avec les autres.
Oui, c'est ça. En fait, c'est comme un journal intime. Ce serait celle de la patiente, décrivant avec lucidité sa pathologie, celle de sa famille, combattant la culpabilité et le déni, et enfin celle des soignants de l'hôpital de Sainte-Anne à Paris. Donc effectivement, je pense que ça doit être un film assez dur. La séance est à 4 euros, donc je pense qu'effectivement, il faut y aller pour une fois qu'on a quand même pas mal...
D'accord, si je t'y vois pas, je t'y traîne alors.
Voilà, tout à fait, oui. Enfin, tu nous entraînes, on y sera plusieurs.
Oui, c'est vrai.
C'est
toi
ça.
Et ta schizo.
Ouais, voilà. Donc, mon cher Hugo, puisque nous avons tant parlé de Star Wars et que la séquence du Pestel est donc terminée, qu'est-ce que tu nous proposes pour la semaine prochaine ?
Ben, la semaine prochaine, vu qu'il y a pas mal de sorties en ce moment, donc nous allons nous intéresser tout particulièrement au genre du documentaire. Puisqu'il y a Sugarman qui sort là.
Oui, tout à fait, effectivement, donc, oui, qui va passer au Pastel. Oui,
donc je saute sur l'occasion pour voir qu'est-ce qu'un documentaire. Je crois il a eu d'ailleurs l'Oscar, je crois, 2013.
Oui, puis un documentaire. Oui, tout à fait. Puis ça me fait penser un petit peu aussi à l'Afrique du Sud, puisque.
Oui, c'est là où tu étais. T'as tué tes premières personnes.
C'est ça, oui. Moi, mais plusieurs.
Oui, parce que Gwen s'appelle Dexter, en fait. Oui, oui. Les gens qui connaissent.
Dark. D'extérieur.
Oui, donc pour rester sérieux, donc qu'est-ce qu'un documentaire, etc. etc.
Donc, d'accord, donc le cinéma oui. Documentaire. Ok, ben d'accord.
Eh bien,
mon cher spectateur, bonne semaine mentale. Voilà, c'est ça, et n'oubliez pas que la force soit avec vous.
C'est vrai.
Et n'oubliez pas que je suis votre père.
Ah ben, dis donc, on va te faire soigner, hein. Oh! I love the smell of napalm in the morning. Life is like a box of chocolates. Pouvoir de quelqu'un. Pourquoi chercher à fuir?